Sciences Po Aix et les étudiants des masters métiers de l'information, politique culturelle et Coris vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette quatrième saison, l'équipe a décidé de se plonger dans l'affaire Naël. Nous avons interrogé la manière dont le numérique a façonné les conséquences politiques et publiques du scandale.
Wow mec,
chut, un bruit.
Regarde la dernière info.
Ah ouais, putain, c'est fou. Mais attends, tu t'informes vraiment sur Serfia là ?
Bah ouais, pourquoi ?
Ok, pause café, faut qu'on parle.
Bon, qu'est-ce qui se passe ? T'as un peu de drama là.
Bah mec, tu peux quand même pas, premier degré, lire l'actu sur un compte Twitter.
Coucou les boys ! Ça va ? Alors ? Ça raconte quoi ?
Bah là, je me fais engueuler par Léo parce que je m'informe via Serfia.
Serfia ? C'est quoi ce truc encore ?
C'est un compte Twitter qui relaie des infos en continu. T'en as jamais entendu parler ?
Non, jamais, c'est quoi ?
En gros, de base, c'est trois étudiants qui se sont inspirés du modèle MediaVenir. En gros, un compte Twitter qui relaie en continu des informations. Et vu qu'il y avait que ce compte-là sur le marché de l'information et que ça marchait plutôt bien, ils ont lancé Serfia en septembre 2020. De là, le projet a grandi et aujourd'hui, l'asso compte une trentaine de membres, je crois bien. Ils diffusent surtout sur X, mais ils ont aussi un compte Instagram, Facebook et une plateforme sur laquelle ils postent leurs articles.
Oui, là, tu vois, sur la plateforme, t'as l'onglet culture, info, politique et sport.
Ouais, enfin, ce qui compte vraiment, c'est leur compte Twitter. À chaque post, ils accumulent vraiment beaucoup de likes. Regarde là, 11 000, 3 800 et là, 54 000 likes.
Ah ouais, donc c'est un vrai truc. Mais attends, c'est financé par qui ?
La publicité et des partenariats afin que tout reste gratuit.
Enfin bref, tout ça pour dire que je pense pas que ça soit un vrai média. Ils ne font que relayer des infos, pas toujours vérifiées d'ailleurs, et ils surfent sur des news qui font du buzz, en gros. Enfin, vous connaissez la chanson.
Ah oui, purée, ça me dit un truc en fait. C'est pas eux qui avaient relayé énormément de vidéos pendant l'affaire Naël ?
Oui, c'est à travers eux que j'ai appris ce qui se passait en France à ce moment-là d'ailleurs. Le gouvernement, via le ministre de l'Intérieur, les a contactés en juillet 2023 afin de calmer les choses et de relayer les bonnes informations. Ça a été jugé polémique sur Twitter parce que les internautes reprochaient au gouvernement de vouloir censurer les vidéos montrant les émeutes urbaines.
Après, du coup, c'était aussi pour limiter toutes les fake news sur le sujet. T'as aussi forcément une question d'idéologie derrière le média.
Oui, je me souviens, Loopsider, ils avaient fait une vidéo dans laquelle ils analysaient par exemple que durant les émeutes, les manifestants d'extrême droite qui scandaient « la France aux Français » était simplement qualifié de passant, tandis que le mot émeutier n'était utilisé que pour qualifier ceux qui attaquaient la police.
Eh ben, c'est l'exemple parfait. Quand ils couvrent les violences, leur but, c'est d'attiser la haine de l'autre, en jouant sur la peur et sans se cacher d'avoir des opinions assez marquées.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un biais.
Dans tous les cas, Serfia, MediaVenir et ces genres de comptes nous font poser de nombreuses questions quant aux enjeux numériques de l'information.
Serfia, MediaVenir, Alerte Info. Vous avez déjà certainement entendu parler de ces médias alternatifs qui émergent sur Twitter. Simple relais d'information ou acteurs réels de l'échec médiatique. Dans cet épisode, nous décrypterons leur rôle en menant l'enquête.
Et pour cela, braquons les projecteurs sur Serfia.
Moi quand même, je trouve ça fou de s'informer via Serfia.
C'est pas si dingue que ça, tu sais. D'après une enquête menée depuis 2013 chez Statista, de nos jours, près de 40% des Français s'informent principalement par le biais des réseaux sociaux numériques. Et ce chiffre ne cesse de progresser.
En fait, tu as à ta disposition un nombre tellement incroyable de sources d'actualité, d'horizons et de formats divers que je peux tout seul, de mon téléphone, avoir une vision nette et fouillée des choses qui se déroulent dans le monde.
Oui, mais clairement, l'avènement du numérique comme mode de communication bouleverse les manières de produire et de s'approprier l'information. On remarque qu'un petit nombre de ces nouveaux médias concentrent l'audience autour d'un format identique, à même de monopoliser l'actu sur les réseaux. Pour preuve, on peut avancer les chiffres affichés par les publications sur Twitter de Serfia. À l'occasion de la couverture des émeutes suivant la mort de Naël, ces publications excédaient tous les jours le million de vues. Cet engouement s'inscrit dans la durée d'ailleurs, puisque une publication du 15 novembre dernier, qui relatait la remise en liberté du policier auteur du tir, a généré une audience de plus de 4 millions d'internautes.
Et comme disait McLuhan, le message, c'est le médium. Mais si, McLuhan, c'est un spécialiste canadien des médias. Il a théorisé le concept de village global en 1967. Le monde est grand, toujours plus connecté. Autrement dit, quand il avance que le message c'est le médium, ça veut dire que pour étudier les caractéristiques d'une information, c'est aussi son support qu'il faut questionner. Moi je propose que, quitte à faire notre petite enquête sur Serfia, on se penche aussi sur la question du support de ce média, Twitter.
Pour essayer de comprendre davantage les enjeux de Serfia, on pourrait peut-être contacter quelqu'un qui y travaille, non ? J'ai un pote qui y a taffé pendant 2 ans.
Je m'appelle Noé, étudiant du coup en 3ème année à Sciences Po Aix, et du mois de septembre 2021 à septembre 2023, j'ai travaillé pour Serfia.
Moi Noé, j'aurais aimé savoir pourquoi Serfia a choisi Twitter comme plateforme de relais d'informations. En fait, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ?
On a réussi à analyser qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui marchait mieux. Par exemple, les postes à 10h du matin marchaient beaucoup mieux qu'à n'importe quel moment de la journée. Et c'est aussi pour ça que des fois, on avait des informations vers 23h30. Et en fait, on attendait jusqu'à 10h du matin pour être sûr qu'elles aient l'impact voulu. On choisit aussi les mots qu'on met dans les tweets en fonction de l'impact qu'ils allaient avoir. Et on savait qu'utiliser ce mot-là plutôt qu'un synonyme allait avoir plus d'impact et allait rendre le tweet plus visible. Mais ça n'a jamais été à but de faire des likes. C'était toujours dans le but de diffuser l'information le plus vite possible. Et pourquoi Twitter ? L'avantage, c'est que ça prend le temps de rédiger le tweet et de relire, d'appuyer sur envoyer et ça peut exploser instantanément.
Et c'est vrai que Twitter bénéficie d'une forte appréciation pour son usage informationnel. Bah ouais, pour 52% de la tranche d'âge 18-30 ans, Twitter s'érige en réseau social numéro 1 en matière d'information. Il relègue donc Facebook et YouTube à des positions secondaires.
C'est vrai que quand on analyse leurs publications, on remarque que ce sont des brèves. Ils se contentent de citer des sources d'infos préalables, avec concision en isolant la substance et ce qui fera cliquer surtout. L'atout sur lequel ils vont miser, c'est la rapidité. Les chiffres et le succès de ce procédé démontrent qu'il plaît et que c'est maintenant la manière de consommer l'actu, avec des conséquences qu'il nous faudra explorer. Concrètement, une question à se poser est celle de la qualité de l'information, s'il en est une, que crée Serfia.
On pourrait peut-être appeler une personne qui travaille dans un média plus traditionnel pour savoir ce qu'elle en pense.
Je suis Lynn Landau, donc journaliste à franceinfo.fr, site d'actualité de France Télévisions, et je suis spécialisée dans le fact-checking et la lutte contre la désinformation. C'est séduisant de se dire, bon, bah moi je m'informe autrement, et j'ai des plateformes différentes, plus cool, ça donne une impression de se saisir soi-même de l'actualité, c'est bien. Mais il faut rappeler qu'être journaliste, c'est un métier. Je pense qu'en fait, ils sont très bons sur ce genre d'événements, manifestations, émeutes, ils sont très bons dans la rapidité. Je pense que c'est pas mal pour savoir ce qui se passe, mais alors, qu'est-ce qui se passe si dans tout cet océan de vidéos qu'ils partagent, il y en a deux ou trois ou quatre qui se glissent et qui sont fausses.
Nous, on s'était dit que Twitter était certes un moyen rapide de diffuser l'information, mais que celle-ci pouvait être confinée, avec l'effet bulle de filtre.
Attends, mais c'est quoi l'effet bulle de filtre ?
Comme expliqué dans le premier épisode sur la polarisation, c'est un concept théorisé par Ellie Pariser, qui dit que les algorithmes vont filtrer les infos en fonction de ce que l'utilisateur consomme déjà, menant à un monde où chacun est conforté dans son opinion existante. Et bien si l'on peut s'attendre à ce que ce phénomène soit amplifié sur Twitter, détrompez-vous.
Une étude menée par deux chercheurs de l'université Paris 8 ont affirmé lors d'un échange par mail que, je cite, « l'enfermement numérique présenté par Ellie Pariser nous semble largement surévalué. À notre sens, les vrais enjeux sont surtout ceux de la collecte, vente de données et de l'inscription de ces entreprises dans le système capitaliste. En gros, l'algorithme de X ne va donc pas cadrer l'information comme on pourrait l'entendre. »
Une autre journaliste, Lucie Ronfaux, nuance elle aussi cet effet supposé des bulles de filtre sur Twitter en disant que ce n'est pas ça le vrai problème. En gros, les médias d'extrême droite ne se cantonnent pas aux bulles de filtre, sinon ça se transforme en une chambre d'écho qui prêche uniquement les convertis. Pour toucher plus de gens, il faut s'exposer à des opinions différentes. C'est pour cela que Twitter est souvent considéré comme un espace de lutte permanente.
Mais clairement, sans adversaire pour s'indigner de ses propos abjects, l'extrême droite pourrait-elle survivre en ligne ?
Et ça, c'est une vraie question.
Cette question de l'algorithme de Twitter nous semble donc au final pas si importante dans l'altération de l'information. Mais il est crucial de garder à l'esprit le concept même de ce réseau sur lequel il se repose. Des tweets courts, impactants, qui cherchent à accrocher et surtout à provoquer. Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living.
Le deuxième souci avec ce genre de compte, c'est la vérification de l'info. J'ai souvent vu passer des tweets de Serfia qui se sont avérés être erronés par la suite.
Ouais, et je crois bien d'ailleurs que ça rend fou les journalistes de médias traditionnels qui, eux, s'évertuent à vérifier leurs infos avant de les publier.
Ma spécialité, c'est d'être réactif, c'est pas forcément d'être pertinent, d'être hiérarchique. Bah, c'est juste d'être rapide, en fait. Mais le problème, c'est que quand vous dégainez une information rapidement, bah, vous l'avez pas vérifiée. Ça reste des non-professionnels. C'est bien pour faire de la veille rapide.
Et toi, Noé, tu en dis quoi ?
Notre rôle, c'était d'aller chercher les informations à la source. Donc les sources fiables, c'était surtout agences de presse, gros médias, etc. Si l'information était une source qu'on considérait comme pas fiable, on la tweetait pas parce qu'il fallait pas prendre de risques. On n'est pas des vrais journalistes. Si on avait des doutes, on faisait toujours du checking, quoi. On appelait, on renseignait au maximum. Le but, c'était dans le cas d'un tweet, de faire un condensé de l'information qu'on avait.
Eh oui, chacun prêche pour sa paroisse, c'est bien normal. Mais si l'on adopte un point de vue marxiste, la valeur d'un bien s'évalue à la hauteur du temps de travail qu'on lui consacre, selon le modèle simple, argent, marchandise, profit. La production va donc créer une valeur, la consommation va la matérialiser, la concrétiser, et le coût consenti pour y accéder prend en compte le profit capitaliste. Pour l'information désormais formée en marché, la logique actuelle telle que reprise par Serfia semble donc être la suivante. Le temps de production de l'info est réduit, comprimé à sa plus simple expression, ce qui peut suggérer une baisse mécanique de sa qualité, de sa valeur.
Cette tendance est aussi à la base de comportements nouveaux, à l'image de la concurrence féroce menée entre Serfia ou encore Mediavenir à l'époque de la couverture des émeutes suivant la mort de Naël. Les outils numériques statistiques viennent qualifier ce phénomène et le formaliser. L'informer est une vue, un clic, un like.
Mais du coup, est-ce que les journalistes sont contre l'émergence de ce genre de médias alternatifs ?
Je suis pas contre, mais je sais qu'il peut y avoir des dérives. À force de partager des vidéos hyper violentes et hyper spectaculaires, parce que sur les réseaux sociaux, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et plus on a d'abonnés, plus on peut avoir des revenus publicitaires. Et donc, ils ont intérêt à ce que les gens y cliquent. Mais le problème, c'est que partager ces contenus, ça peut engendrer de la désinformation, de la violence. Ces plateformes avaient eu un avertissement d'un ministère de l'Intérieur. Donc, je dirais qu'en fait, il faudrait que ces plateformes, elles se dotent d'un minimum d'éthique avant de partager une vidéo qui regarde si c'est pas vieux ou périmé, qu'ils fassent un travail minimum. Et je pense pas que ce travail de vérification, il est fait.
Après, moi, j'aimerais bien savoir comment ils sélectionnent leurs infos. Parce que, pour le coup, ils ne relaient pas tout, il me semble.
Bon, déjà, on s'est géré par des jeunes. Et donc, l'objectif aussi, c'était de relayer des informations qui intéressent les jeunes. Notre audience, qui est de 18-24 ans, bah, y a des sujets, typiquement, le premier ministre australien a été démis de ses fonctions, par exemple. Bah, ça, c'est le genre de truc qu'on va pas tweet parce que ça peut intéresser une minorité de notre audience, mais ça vaut pas le coup. Il fallait que chaque community manager soit capable de voir une information et, à partir du moment où il la voit, de déterminer si elle est adaptée ou non à notre ligne édito.
C'est bien ce que je pensais. En gros, Twitter cadre encore une fois l'information proposée. C'est ça qui intéressant d'analyser. Surtout, comme tu le dis, Twitter est un média jeune. Selon le rapport trimestriel de Twitter du 28 avril, les 25-34 ans sont la plus grande partie des utilisateurs. Ils représentent 38%, suivi de près par les 18-24 ans.
Moi, je vais un peu casser l'ambiance, mais quand je vois des comptes comme Serfia, ça me fait directement penser à une théorie de Pierre Bourdieu, celle de la circulation circulaire de l'information. Bourdieu décrit à l'époque le mécanisme qui consiste en ce que les médias reprennent dans leurs articles des infos déjà parues dans d'autres quotidiens, ce qui contribue à terme à une homogénéisation de l'information.
Oui, et selon Franck Rebillard, qui est un professeur en sciences de l'info et de la communication à l'université Sorbonne Paris Nouvelle, avec Internet, c'est surtout la dimension prise par ce processus de retraitement de l'information qui s'intensifie. Le processus de traitement de l'info passe d'un stade artisanal à une échelle industrielle. Les infos sont reprises par plus d'acteurs à plus grande vitesse.
Internet, c'est le stade ultime, selon lui, de la théorie de Bourdieu. Les journalistes s'inspirent des productions de leurs pairs pour faire leurs propres choix éditoriaux. Le texte intégral de dépêches d'agence ou d'articles de presse sont repris dans d'autres formats et adaptés en fonction de l'espace de diffusion. En tant qu'utilisateur, on peut avoir l'impression d'un déferlement de contenu identique, menant alors à une redondance de l'information.
C'est une sorte des agrégateurs, en fait. Pour moi, un agrégateur, c'est vraiment des gens qui vont agréger, voilà, des informations qu'ils vont voir partout. Et ça fait pas d'eux des fabricants de contenu, en fait. C'est comme Wikipédia, c'est pas une source. Wikipédia, c'est un agrégat de sources.
On estime aujourd'hui que le temps moyen de propagation de l'information, la circulation d'une source dite primaire à au moins un autre média, tourne autour de 175 minutes, soit un peu moins de 3 petites heures. Conséquence centrale, 64% du contenu informatif en ligne en France est un copier-coller ou une version légèrement remaniée des dépêches de l'AFP. C'est en somme la méthode Serfia, le relais de l'info.
Ce que montre cette pratique nouvelle, c'est aussi la valeur marchande de l'information. Et ça, Serfia l'a bien compris. En juillet dernier, il republiait des éléments à propos de la nouvelle politique de rémunération de la plateforme. Je cite, « Il faut être un compte vérifié et avoir réalisé plus de 5 millions d'impressions sur les 3 derniers mois pour toucher des milliers d'euros », énumérait-il, accompagné d'une illustration animée d'un personnage nageant à la Picsou dans des
billets. « La thune, bah pas toujours en fait hein. ».
À l'occasion de sa couverture de l'affaire Naël, il est arrivé que Serfia rassemble cette audience de 5 millions d'impressions à l'occasion d'un seul tweet, laissant présager l'importance de la manne financière. La valeur d'une information, pour un média comme Serfia, n'est pas proportionnelle à sa qualité journalistique, mais varie selon la demande des internautes et selon les circonstances. Il s'agit de maintenir le désir médiatique de leur public, donc de suivre la demande populaire. Un tweet aura de la valeur parce qu'il est un tweet de qualité désirable pour ses lecteurs. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all?
Bon, mais du coup, Serfia, c'est un vrai média ou pas?
On se considère comme juste des gens passionnés par l'actualité. Je pense que ce serait un peu prétentieux de se dire journaliste. On n'a aucune formation journaliste, même si dans l'équipe, y en a quelques-uns qui étaient en école de journalisme. Ça s'arrête là. On relaye l'information sans la produire.
Quoi qu'il en soit, plus le temps passe et plus la frontière devient poreuse entre journaliste et internaute.
L'information circule toujours plus et les valeurs peuvent s'y perdre. C'est selon nous ce qui distingue le plus les journalistes des animateurs du Média Serfia. Là où les premiers accomplissent une quête, on va dire, traditionnelle, de la recherche, de la vérité à diffuser, et second vise le profit, l'accroissement de l'audience, le buzz en somme.
Et effectivement, cette appropriation des non-journalistes sur l'activité informationnelle peut expliquer la perte de sens de ce métier. On peut faire le constat suivant, le journalisme n'est plus essentiel, puisque n'importe quel militant peut en quelques clics bien réfléchi s'en réclamer. L'info va plus vite, mais moins bien.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
On voulait vous parler de la série télé The Newsroom, créée par Aaron Sorkin, qui se déroule dans un contexte de salle de rédaction d'une chaîne de télévision câblée. Bien que la série ne soit pas spécifiquement axée sur les médias numériques, elle aborde des thèmes pertinents pour comprendre l'évolution des médias dans un monde numérique.
En effet, elle offre des réflexions sur la rapidité de l'information, l'utilisation des médias sociaux, l'éthique journalistique et l'impact des médias sur l'opinion publique, des éléments qui sont également cruciaux pour comprendre l'environnement médiatique contemporain, notamment sur Twitter. We only got one word, that's all we got. One word, and something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the good word, word, yeah. We only got one word.
Alors, Serfia, média du futur ou transmetteur de fake news? Bah, évidemment, la réponse n'est pas si radicale. Mais ce qui est sûr, c'est que ce type de média gagne en influence de jour en jour. Alors, s'il permet peut-être de donner des informations d'actualité à ceux qui ne vont lire la presse que rarement, bah, il faut tout de même rester vigilant sur la qualité du contenu partagé. D'ailleurs, à ce sujet, Lin Lan Dao a un certain avis là-dessus.
Ça reste un outil et ça ne pourra jamais se substituer à des médias traditionnels. Et ça fait peut-être un peu boomer et réactionnaire, mais j'ai envie de dire que, bah, enquêter, chercher, recouper une information, géolocaliser une vidéo, etc. Ce sont des réflexes à avoir, mais que même finalement des particuliers peuvent avoir. Mais il faut faire attention avec le partage, la viralité en fait. Déjà, c'est pas parce que ça a été vu des millions de fois que c'est vrai. Ils ont beaucoup de followers, ils sont très très partagés, ils ont beaucoup d'engagement, mais ça veut pas dire que c'est pas un gage de vérité, ça veut dire que c'est spectaculaire. Ça oui.
Bon, allez, fin de la pause café là.
Oui, on a cours maintenant. À bientôt les loulous.
À plus.
Ciao.
Dans l'épisode suivant, on parlera des médias alternatifs militants.
Wagi, Lucas et Axel expliqueront le développement de certains médias militants sur les réseaux sociaux dans le contexte de l'affaire Naël et comment ces derniers ont proposé un cadrage alternatif aux voix médiatiques traditionnelles. Ils présenteront ainsi l'exemple passionnant de Parole d'honneur qui porte la voix des quartiers en France. C'était l'épisode 8 de Révolution numérique saison 4, présenté par Cléophée, Manon, Gaspard et Léo.
A très vite sur Révolution numérique!